France Culture.
Et tout de suite, on fait le point sur l'information. Le journal de la rédaction, c'est avec vous, Thomas Cluzel. Rebonjour.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Et l'on débutera avec le soulagement pour Tom Félix et sa famille. Ce Français âgé de 34 ans risquait la peine de mort en Malaisie, où il était accusé à tort de trafic de stupéfiants. La justice a finalement prononcé son acquittement ce matin. On se rendra au procès en appel des assistants parlementaires européens du Front National. À suivre également un projet de loi examiné au Sénat aujourd'hui visant à élargir les pouvoirs de la police municipale. On en parlera avec notre invité. On poursuivra notre tour d'horizon des différentes stratégies élaborées par les partis politiques dans la perspective des municipales. Enfin, on détaillera une action inédite en France où quand des comédiens de doublage mettent en demeure deux sociétés américaines ayant cloné leur voix sans leur accord. Lorsqu'il rejoint la Malaisie en 2023, Tom Félix, diplômé en aquaculture et biologie marine, ancien cadre au sein du groupe français Veolia, est sur le point d'ouvrir un restaurant. Seulement voilà, dans la maison où il est hébergé, la police va trouver plusieurs centaines de grammes de cannabis. Vont alors s'enchaîner des mois de procédures et une détention éprouvante, 900 jours dans des conditions particulièrement difficiles. Et ce matin, la juge a finalement décidé de l'acquitter. Les preuves de sa culpabilité n'étant pas apportées, la fin d'un enfer pour celui qui encourait rien de moins que la peine de mort. Nicolas Théillard, bonjour.
Bonjour.
Tom Félix a été libéré dans la foulée.
Libération à l'issue d'une audience où il est apparu amaigri, affaibli, lui qui était emprisonné depuis près de 2 ans et demi. L'histoire de Tom Félix, c'est celle d'un jeune Français installé en Malaisie pour ouvrir un restaurant sur l'île de Langkawi. Projet qui vire au cauchemar en août 2023. La police découvre près de 2 kilos de cannabis dans la maison où il est hébergé par son associé malaisien. Tom Félix clame son innocence, il est même disculpé par son associé lors de l'enquête, mais le Français voit les mois défiler entre les murs de sa cellule et l'accusation grave de trafic de stupéfiants le place sous la menace de la peine capitale. Une insupportable angoisse qui a pris fin ce matin au grand soulagement de son avocat, maître François Zimré.
Très soulagé parce que c'est fou ce que ce garçon a souffert. Il a vraiment souffert l'enfer d'une détention indigne, d'une accusation injuste, d'une détention longue. Et il n'a tenu que grâce au soutien de ses parents qui a permis d'arriver à ce résultat.
Des parents qui avaient reçu des signaux rassurants de l'Élysée récemment et qui accompagnaient leur fils ce matin quand son calvaire a pris fin.
Merci Nicolas Théillard. Après 3 jours de répit, Kiev a de nouveau été ciblé la nuit dernière par les frappes de l'envahisseur russe. Au total, l'armée du Kremlin a lancé pas moins de 70 missiles et 450 drones sur son voisin, soit sa plus grosse attaque nocturne depuis le début de l'année. Par ailleurs, l'Ukraine continue à sombrer dans un froid polaire en raison des coupures de chauffage causées justement par ces bombardements. Une arme mortelle au point que les Ukrainiens utilisent désormais un terme pour qu'elle cette réalité. Holodomor, la mort par le froid, en référence à l'Holodomor, la famine provoquée délibérément par Staline dans les années 30 pour soumettre l'Ukraine. Et c'est donc dans ce contexte que des pourparlers directs entre belligérants sont censés malgré tout se tenir demain et jeudi à Abu Dhabi sous l'égide des États-Unis.
Midi et 33 minutes sur France Culture, la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
Après 11 jours de débat, l'heure est aux réquisitions au procès en appel des assistants parlementaires européens du Front National. C'est aujourd'hui que les deux avocats généraux devraient, sauf surprise, démontrer la culpabilité de Marine Le Pen et de ses co-prévenus, puis réclamer des peines à l'endroit de chacun d'entre eux. La chef de l'extrême droite française, laquelle, rappelons-le, joue ici sa candidature à la présidentielle de l'an prochain, a déjà signifié qu'elle ne pariait sur aucune mansuétude de la part des représentants de l'accusation. Anne Fauquemberg, bonjour.
Bonjour.
En direct du tribunal, avant le réquisitoire attendu donc cet après-midi, se tenaient ce matin, Anne, les plaidoiries des parties civiles.
Oui, c'était une plaidoirie synthétique, claire, qui a finalement repris les moments forts de ces dernières semaines d'audience. Patrick Maisonneuve, l'avocat du Parlement européen, est revenu sur les aveux ou demi-aveux des prévenus. Le député Julien Odoul, qui a expliqué que l'élu européen dont il était assistant parlementaire ne lui donnait pas de travail. Nicolas Bay, qui a dit qu'il avait cheminé et compris ce qui lui était reproché. Ou encore Bruno Gollnisch, qui a affirmé qu'il n'y avait pas de système, mais une organisation. Néanmoins, selon l'avocat, Marine Le Pen n'a pas beaucoup évolué dans sa défense et elle elle s'est même enfermée dans le déni.
J'ai pensé qu'on allait y voir un changement dans la défense, dans la mesure où Mme Le Pen avait dit que si on estimait qu'il y avait un délit, elle était prête à l'admettre. Elle n'a rien admis du tout, et elle n'a surtout pas admis qu'elle était dans, au cœur de la mise en œuvre de ce système de l'étalement de fonds publics. Ça, ça n'a pas changé. Un déni aussi total, alors qu'il y a des vérités aussi évidentes, si je prends le dernier mail de M. Schaffhauser qui est écrit au trésorier du parti, Marine Le Pen nous demande de commettre un délit, on va se faire attraper. Et on répond, bah oui, elle le sait. Et puis voilà.
Les élus ont un devoir d'exemplarité, je n'invente rien, poursuit Patrick Maisonneuve. La confiance des citoyens et des contribuables de l'Union européenne a été trahie. Sa consœur Bérénice de Warren est quant à elle longtemps revenue sur la zone grise, cette prétendue zone de tolérance accordée par le Parlement européen sur la gestion des enveloppes des assistants parlementaires. Ce n'est pas un dossier de zone grise, on est bien en zone interdite, insiste-t-elle, en rappelant les nombreuses règles en vigueur et le niveau de conscience des prévenus sur tous ces sujets. Elle demande 300 000 euros au titre du préjudice moral pour le Parlement européen et 4 400 000 euros pour le délit de détournement de fonds publics, sachant qu'1 200 000 euros a déjà été remboursé.
Merci Yann Fauquemberg en direct du tribunal avec Gilles Gallinaro pour les moyens techniques.
La fin du tunnel budgétaire.
Hier, après plusieurs mois de blocage parlementaire et le rejet des deux dernières motions de censure déposées contre le gouvernement, les députés ont fini par adopter dans la douleur le projet de loi de finances 2026, ouvrant ainsi la voie à sa promulgation. Avant toutefois une ultime contrainte, le passage devant le Conseil constitutionnel. Alors, il se trouve que la fin de ces débats budgétaires coïncide, vous le savez, avec le début officielle de la campagne des élections municipales. Celles-ci se tiendront les 15 et 22 mars prochains, scrutin local par définition, mais où affleurent bien souvent des enjeux nationaux pour chacune des formations politiques. C'est ce que nous analysons depuis le début de la semaine. Après le RN hier, focus aujourd'hui sur le Parti communiste français. Adrien Toffolet, bonjour.
Bonjour à tous.
Le parti espère bien entendu ne pas perdre de ville à l'occasion de ce scrutin et même, Adrien, pourquoi pas gagner de nouvelles municipalités.
Oui, les stratèges communistes se disent plutôt confiants après les dernières décennies synonymes de crise majeure pour le PCF qui a soufflé en 2025 ses 105 bougies. On comptait plus de 900 maires communistes à la fin des années 90. Aujourd'hui, il en reste environ 600. On a stoppé l'érosion en 2020, estime le responsable des élections dans le parti Pierre Lacaze, qui oublie un peu vite la perte aux dernières municipales de bastions comme Gardanne, Arles, Champigny-sur-Marne, la ville de Georges Marchais ou encore Aubervilliers. Cette année, nous espérons à minima stabiliser la situation et même progresser, assure-t-il. Le PCF reste bien implanté dans de nombreuses petites villes et villages, avec toujours ses zones d'influence dans la banlieue rouge, en région parisienne par exemple, dans les Bouches-du-Rhône, dans le Nord, le Pas-de-Calais, en Dordogne et la Moselle. Et pour se redonner les moyens de conquérir des villes, le PCF présente 1200 têtes de liste dans des listes de rassemblement de la gauche bien souvent, pour se présenter en rempart contre l'extrême droite avec qui les duels s'annoncent nombreux. Et même quand un communiste n'est pas tête de liste, il fait partie prenante des alliances avec socialistes et écologistes, sans les insoumis. C'est le cas à Paris, Montpellier, Nantes ou encore Lyon. Conclusion de Pierre Lacaze, au municipal, la gauche ne gagne jamais sans les communistes, indispensables alliés de terrain.
Et trois villes en particulier, Adrien, devraient retenir toute l'attention cette année.
Oui, d'abord deux grandes villes où le Parti communiste a des chances de l'emporter, et pas des moindres. Nîmes, dernière ville de plus de 100 000 habitants dirigée par les Républicains, mais également ancien bastion du PCF. Le candidat communiste pour l'Union de la Gauche aurait les filles et pour l'instant le favori. L'autre, c'est Le Havre, anciennement communiste aussi, qui a basculé à droite en 1995 et qui a à sa tête Édouard Philippe, candidat à sa réélection. Le député communiste Jean-Paul Lecoq espère l'emporter en faisant de l'ancien Premier ministre, le comptable de la politique d'Emmanuel Macron. Et puis dernière ville, Saint-Amand-les-Eaux, dans le Nord, petite ville où le patron des communistes, Fabien Roussel, qui a succédé au maire communiste démissionnaire Alain Bocquet, doit se confronter au vote de ses administrés pour la première fois, après sa défaite aux législatives en 2024. Un échec assez municipal enterrerait immédiatement ses ambitions présidentielles.
Merci Adrien Toffolet.
Et à 6 semaines des élections municipales, donc, voilà qu'un projet de loi arrive à point nommé au Parlement.
Oui, un texte texte soutenu par le ministre de l'Intérieur visant à élargir les pouvoirs de la police municipale dans le cadre législatif date de 1999, l'occasion d'adapter donc le statut de ces hommes et de ces femmes à un rôle devenu aujourd'hui de plus en plus incontournable dans les collectivités locales, en première ligne notamment dans la sécurité du quotidien, patrouiller dans les rues, sécuriser les écoles, lutter contre les nuisances sonores, réguler la circulation. Alors le texte semble promis un très large soutien au Sénat, un vote solennel est prévu mardi prochain, il sera ensuite transmis à l'Assemblée. Pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Virginie Malochet, sociologue à l'Institut Paris Région, par ailleurs chercheuse associée au Centre de Recherche Sociologique sur le Droit et les Institutions Pénales. Bonjour madame.
Bonjour.
Alors même si ce projet de loi a peu de chances en réalité d'être adopté avant les élections municipales, il entre évidemment en résonance avec la campagne qui s'est ouverte hier. Il suffit de constater pour cela les propositions en matière de sécurité qui se multiplient dans les programmes des candidats. Pour autant, diriez-vous que ce projet de loi répond davantage à une demande des élus locaux ou bien à une incitation forte de la part de l'État ?
Les deux, et j'ajouterai aussi que ce projet de loi vient répondre aux aspirations d'une large partie de la profession des policiers municipaux, hein, qui en attendent beaucoup. Donc, l'idée, l'objectif majeur de ce projet de loi, c'est de renforcer les prérogatives judiciaires des policiers municipaux. Cela correspond clairement à des attentes politiques du côté des élus locaux, même si ce sujet continue de diviser. Et puis, oui, en effet, du côté des services de l'État central, de ces services déconcentrés, il y a comme ça un appel à une mobilisation renforcée des collectivités dans la coproduction de sécurité. Les forces de l'État, effectivement, comptent aujourd'hui avec ces polices locales pour en faire davantage en matière de sécurité, et où eux-mêmes sont pris par leurs propres contraintes.
Et au-delà de ces appels à la mobilisation, parce que ce projet de loi reste malgré tout porté par le gouvernement, diriez-vous qu'il faut y voir une forme de transfert de compétences à bas bruit, visant à faire porter donc la responsabilité de la sécurité du quotidien sur les collectivités locales et donc moins sur la police, la gendarmerie qui relève de l'autorité de l'État et donc des financements nationaux.
En tout cas, les retours des élus locaux, des maires, et j'ai envie de vous dire, quelle que soit leur affiliation partisane, vont en ce sens. Hein, c'est-à-dire que si les élus locaux développent toujours plus leurs services de sécurité, leur police municipale, c'est bien parce qu'ils se sentent poussés à le faire dans une logique, effectivement, de compensation de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils perçoivent comme, alors, je ne sais pas s'il faut dire des engagements, mais en tout cas comme des insuffisances, comme des carences de la part des services de l'État sur le terrain de la tranquillité quotidienne. Donc, du côté des acteurs locaux, oui, ce mouvement-là est vécu comme un transfert de charge, de fait, même si ce n'est pas explicitement assumé de cette manière-là du côté de l'État central.
Et cette évolution, vous l'avez évoqué d'un mot, fait consensus donc parmi les agents ?
Consensus, je n'emploierai pas ce terme parce que parmi les policiers municipaux, il y a une pluralité de manières d'investir le métier, de le vivre, et certains sont réticents à l'annonce de cette extension annoncée des prérogatives, craignant que cela puisse notamment impacter le rapport à la population. Mais très majoritairement, oui, les policiers municipaux réclament ces prérogatives-là, considérant que leur qualité judiciaire actuelle les empêche de gérer pleinement, je vais le formuler comme ça, finalement des situations auxquelles ils sont confrontés régulièrement, des infractions du quotidien pour lesquelles, à ce stade, il leur faut nécessairement faire appel aux services de police nationale ou de gendarmerie pour traiter ces enjeux problématiques, mais auxquels ils sont confrontés au quotidien.
Cette extension donc du champ d'action des polices municipales sera soumise à l'approbation des maires, conformément au principe de libre administration des collectivités. Cela signifie qu'elle pourra donc s'appliquer différemment d'une commune à une autre, dans un contexte où certains élus craignent déjà le désengagement de l'État. Est-ce que ces évolutions ne risquent pas de creuser davantage encore les écarts d'un territoire à l'autre ?
C'est une question qui se pose. Effectivement, telle que cette disposition est conçue, on verra ce que les débats parlementaires donneront, mais cette disposition permettrait aux élus de choisir ou pas de s'emparer de cette possibilité de prérogative judiciaire étendue. Hein. C'est-à-dire que c'est au maire qu'il reviendrait de dire « Oui, moi je veux que ma police municipale investisse ses prérogatives judiciaires ». Ce qui ouvre, d'une certaine façon, un régime de police municipale à plusieurs vitesses. On peut effectivement le lire comme un risque, ou en tout cas redouter un accroissement des inégalités territoriales. On peut aussi le voir, si on regarde le verre à moitié plein, comme une possibilité renforcée d'adaptation aux besoins locaux en fonction, là encore, de la lecture que les élus ont de ces enjeux-là.
Et on terminera par ces mots. Merci Virginie Malochet, donc chercheuse associée au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Louise Guérin pour la préparation.
C'est un phénomène qui s'aggrave en France, une situation d'autant plus alarmante qu'elle est parfois, malheureusement, la dernière marche avant la rue.
Oui, tous les signaux du mal-logement sont au rouge. C'est ce qui ressort du dernier rapport annuel de la Fondation pour le logement qui publie son rapport annuel. 350 000 personnes sont actuellement sans domicile. Les expulsions locatives avec le concours de la force publique atteignent des sommets. De même, la demande de logement social n'a jamais été aussi élevée, avec près de 3 millions de demandeurs en attente. Et à l'inverse, c'est l'autre record historique. Les chances d'en obtenir un n'ont jamais été aussi faibles. Je vous propose d'écouter le délégué général de la Fondation, Christophe Robert, lequel dresse un bilan particulièrement sévère de la politique actuelle et à l'approche des élections municipales. On en parlait, il appelle les électeurs à se mobiliser.
On n'avait jamais connu à la Fondation de telles tension sur le front du mal-logement et de la pauvreté. On paye le prix fort des insuffisances et des renoncements de ces dernières années. Jamais non plus aussi eu peu de réactions de la part du gouvernement face à une telle dégradation sur les plans de l'exclusion et du mal-logement. Personne n'a réagi aux chiffres de la pauvreté qui montraient qu'on n'avait jamais atteint un chiffre aussi élevé depuis 30 ans. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc il est impératif de remettre la lutte contre les exclusions au cœur de l'action publique et de redonner de l'espoir aux personnes en souffrance comme à celles qui ont peur de basculer dans la précarité. Donc on lance aujourd'hui un appel solennel aux candidats aux élections municipales, aux responsables politiques, au gouvernement comme aux parlementaires pour faire de la politique sociale du logement et de la politique de lutte contre les exclusions l'un des 3-4 chantiers prioritaires de la nation.
Christophe Robert, délégué général de la Fondation pour le logement, des propos recueillis par Aurélie Kiefer.
C'est une action collective et surtout inédite de la part d'une profession aujourd'hui tétanisée par la déferlante de l'IA générative.
8 comédiens de doublage français ont adressé des mises en demeure à 2 sociétés américaines ayant cloné leur voix sans leur accord. Un débat qui d'ailleurs dépasse de loin la France, puisqu'en 2023, déjà la star américaine Scarlett Johansson avait mis au jour l'utilisation de sa voix par la start-up OpenAI sans son consentement. Estelle Camerer, bonjour.
Bonjour.
Parmi ce clonage, on trouve des voix françaises connues, notamment celles de Richard Gere, Patrick Swayze ou bien encore Buzz l'éclair.
Des voix très familières.
C'est bon, tiens la position. Tiens la position. Non.
Bonjour. Vous vous souvenez de moi?
Je suis confuse.
Non. Je suis venue chez vous hier. Vous avez refusé de me
Vous avez sûrement reconnu le doublage de Patrick Swayze dans Dirty Dancing ou encore celui de Julia Roberts, ici dans Pretty Woman, fait respectivement par Richard Darbois et Céline Monsara, qui font partie des 8 comédiens ayant adressé la mise en demeure. Les doubleurs avertissent sur les risques de l'intelligence artificielle depuis plusieurs années. Se désole Patrick Cuban, porte-parole du collectif « Touche pas à ma VF ».
C'est un peu ce qu'on avait annoncé, notamment au ministère de la Culture, qu'on avait essayé d'interpeller sur ces thématiques-là et qui, pour le moment, n'a pris aucune disposition d'urgence sur notre problématique de pillage en fait de nos voix. Et ce qui est en train d'arriver, en fait, a été prévu, c'est-à-dire une longue période de procédure, aussi bien sur le sol français que là où on est obligé d'aller aux États-Unis pour aller effectivement défendre nos voix.
Des procédures coûteuses. Les comédiens demandent aux sociétés VoiceDub et Fish Audio de supprimer tous les modèles de clonage exploitant leur voix sous 8 jours. Les plateformes proposent de payer pour faire lire n'importe quel texte avec une voix choisie dans un catalogue. Un véritable vide juridique sur lequel le gouvernement français doit se pencher rapidement, insiste Patrick Cuban, qui s'inquiète d'entendre des dessins animés avec des voix et des émotions artificielles.
puisque cette technologie, c'est pas magique, hein, pour pouvoir produire une émotion synthétique, elle fait une sorte de moyenne des émotions. Donc on va arriver à un environnement audiovisuel et au cinéma avec des émotions comme ça, un peu décidées par l'algorithme.
Et ce, malgré un attachement des Français au doublage, 85% des entrées au cinéma se font en version française sur le territoire.
Merci Estelle Caméraire. Les locaux français de la plateforme X, propriété d'Elon Musk, ont été perquisitionnés ce matin pour diverses dérives présumées, notamment des biais dans ses algorithmes. Le milliardaire a été convoqué en audition libre par le parquet de Paris le 20 avril prochain. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, avec un ciel le plus souvent variable, même humide, du centre-ouest au bassin parisien jusqu'au nord-est, ainsi que sur le sud des Alpes et la Corse. Le département de la Gironde a été placé en vigilance orange pour crue. Quant aux températures, elles seront comprises entre 6 et 13 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Axel Dubois. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.